Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous, merci d'être chaque vendredi fidèle à notre émission Les Rendez-vous du Mantois, une émission depuis le bureau d'un élu. Et en cette fin de semaine, nous sommes dans une commune de 3400 habitants, une commune très dynamique qui multiplie les événements avec un tissu associatif aussi fourni que varié, j'ai nommé Porcheville. Le maire Alec Geltier nous a ouvert les portes de son bureau pour 20 minutes d'interview. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous allons aborder différents sujets tels que les travaux que vous avez réalisés sur la commune, le développement commercial du centre-ville, mais aussi la culture et, comme je le disais, les nombreux événements qu'organise la commune. Débutons avec cette nouvelle tant attendue, l'arrivée d'un terrain de football synthétique.
Effectivement, tant attendu, ça fait 5 ans que l'on attendait ce terrain synthétique. On avait déjà lancé l'opération avant ce mandat. Donc là, ça y est, il est en cours de fabrication. Et bien, il sera bientôt fini, terminé au mois mois d'octobre, normalement, si tout va bien. Donc on a eu des subventions relativement importantes de la région et du département, ainsi que le fonds de concours, ce qui nous a permis d'avoir un reste à charge qui était relativement faible, 133 000 euros pour la commune. Et le fait qu'il soit envié aussi par les différentes communes, c'est que nous avons une base déjà qui était saine pour pouvoir faire ce chantier, ce qui fait qu'on a eu un coût relativement, je dirais pas modeste, mais inférieur à un coût normal qui serait d'1 million d'euros.
Donc là, ça y est, les travaux sont finis, l'inauguration est prévue
prochainement. On a prévu une inauguration normalement pour le 9 octobre.
Donc là, ça y est, les gens vont pouvoir en profiter depuis le temps qu'ils l'attendaient.
Ils vont pouvoir en profiter avant, que mi-septembre, normalement, il sera opérationnel. Voilà, et l'inauguration se fera après, au mois d'octobre.
Autre nouveauté, vous avez poursuivi l'installation de caméras de vidéoprotection et surtout, vous avez équipé la police municipale d'une caméra piéton. Pourquoi est-ce que ce choix ?
Alors, c'était aussi une demande de la police municipale. Il est un fait que quand vous êtes filmé, ça atténue un petit peu le sentiment d'agressivité. Donc, les gens, quand ils sont filmés, on sont plus sur la réserve. Donc, c'était aussi plus sécurisant pour nos policiers municipaux. Et les gens sont quand même relativement moins agressifs lorsqu'ils savent qu'il y a un enregistrement qui est en cours.
Donc, elle a été mise en place très récemment.
Oui, c'était mis en place début septembre.
Une cinquantaine de caméras désormais sur la commune, c'est une volonté encore d'agrandir cette option-là ?
Alors, 51 caméras, effectivement. Donc ça, au départ, c'était pour sécuriser aussi la commune, éviter tous les dépôts sauvages. Effectivement, on en avait énormément sur la des communes et des dépôts sauvages qui coûtent très très cher pour la commune. Donc on a décidé d'augmenter au fur et à mesure le nombre de caméras. Alors on a budgété encore normalement une dizaine de caméras pour l'année 2024.
Vous avez vu un effet sur ces dépôts ?
Oui. Oui, alors malheureusement, communiquant énormément avec les autres maires, eux ont encore des dépôts sauvages que nous n'avons plus. Voilà, donc ça veut dire que les dépôts sauvages se sont déportés sur les communes alentour.
C'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent. On avait d'ailleurs largement abordé la semaine dernière dans la commune dans laquelle nous étions à Goussonville. Ces dépôts sauvages, vous arrivez du coup maintenant à les endiguer. Et pour autant, vous voulez toujours agrandir votre parc de caméras. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que vous craignez une recrudescence de cambriolage, par exemple ou...
Non, absolument pas. On a une commune qui est relativement calme. Nous avons des décalages horaires avec notre police municipale, ce qui fait qu'elle a une amplitude relativement importante sur la commune. Donc je pense que c'est aussi dissuasif, un partenariat avec le commissariat de Mantes pour avoir des patrouilles aussi sur la commune. Mais on fait partie des communes qui sont relativement calmes, on n'a pas de problème de ce côté-là.
Votre commune a pu bénéficier de fonds verts et ainsi rénover l'école Pierre et Marie Curie. Déjà, est-ce qu'on peut présenter fonds verts ?
Alors le fonds vert, c'est une subvention de l'État, c'est ventilé par le préfet. Le but étant d'aider les collectivités à amorcer leur transition écologique. Voilà, c'est une aide pour initier le mouvement sur tout ce qui peut être isolation des structures communales, en fait.
C'est important pour vous, cette transition, de s'y mettre doucement à des choses moins énergivores ?
Alors oui, d'une part, ça permet... Alors, pour l'école primaire, effectivement, là, c'est pour le confort des élèves. Voilà, en hiver, il faisait relativement froid. En été, il fait très chaud. Donc, ça permettra d'avoir un confort pour les élèves et les éducateurs, enfin, tout ce qui est instituteur, qui soit plus agréable. Et puis, pour nous, que ça soit beaucoup moins énergivore. Vu l'augmentation des coûts d'électricité et du gaz en ce moment, tout se lie. Et on avait déjà entamé cette transition énergétique déjà depuis 2020.
Au niveau de cette école, donc Pierre et Marie Curie, qu'est-ce que vous avez fait comme travaux grâce à ce fonds vert?
Alors, les travaux se feront en 2024, en juillet-août 2024, pour éviter la collectivité avec les enfants. Et on va y faire l'isolation par l'extérieur, le changement des fenêtres, l'isolation en plénum, enfin tout ce qui concerne la réfection d'un bâtiment pour avoir une isolation thermique.
Donc des gros travaux à venir?
Des gros travaux à venir, tout à fait. Pour une somme d'environ 600 000 euros au total.
Et au niveau du financement, justement, Fonds Vert vous accompagne à quelle hauteur?
À une hauteur de 50%, ce qui fait que ça nous ferait aux environs de 300 000 euros pour la commune.
Et ces travaux, vous avez une estimation sur la durée? Combien de temps ça va durer? On sait que ce sera donc pendant l'été, pendant les vacances. Est-ce qu'on peut espérer qu'à la rentrée, tout soit terminé?
Alors, c'est le but, de manière de commencer le plus tôt possible pour pouvoir terminer à la rentrée. Si jamais il reste des travaux à faire, après ce sera sur les vacances scolaires ou éventuellement les mercredis. Enfin, on adaptera éventuellement les samedis aussi.
Niveau scolaire, il y a eu une ouverture de classe cette année.
Effectivement, le fait d'avoir des logements sociaux qui se sont ouverts, donc des parents, des familles se sont implantées. Donc on a une ouverture de classe de 22 élèves en maths. Maternelle, il me semble, oui c'est ça, oui, donc en maternelle. Donc effectivement, on a livré 70 logements dernièrement, ce qui fait que ça a augmenté le nombre de classes.
Donc pas mal de naissances, des gens qui se sentent bien
Alors, pas les naissances, parce qu'ils ne rentrent pas à l'école quand ils sont nés, mais je dirais que oui, effectivement.
Ils sont encore petits s'ils sont en maternelle, ils restent encore.
Ouais.
Et donc c'est à l'école Mandela, hein, cette petite section.
À l'école Mandela, tout à fait.
Vous nous le disiez, hein, 22 élèves supplémentaires, effectivement.
Il y a 90 logements qui ont été livrés.
Vous œuvrez aussi eh bien, pour la dynamisation du centre-ville avec un développement des commerces. C'est une volonté que vous aviez?
Alors, on essaye de maintenir les commerces en place et de développer d'autres commerces. Donc, pour ce faire, on a donc acquis un local qui se trouve sur le boulevard, juste à côté de la mairie. Et on a acquis aussi un deuxième local, l'ancien cabinet médical, sur lequel nous voudrions développer des commerces, effectivement.
Quel type de commerce vous aimeriez développer?
Alors, pour le type de commerce, on a fait appel à la boutique...
Boutique à l'essai.
Merci, boutique à l'essai. On a fait appel à la boutique à l'essai qui, elle, va nous proposer des candidatures, qui va monter les dossiers. Et à partir de là, on verra quel commerce on va choisir au sein du conseil municipal, une fois qu'on aura tous les dossiers, pour voir celui qui est le plus adapté et qui pourra être le plus pérenne et qui satisfera aussi tous les Porchevillois.
Et là, est-ce qu'on a des délais à peu près? Quand est-ce que vous souhaitez pouvoir l'implanter?
Alors, le commerce par lui-même, enfin le local par lui-même va être réhabilité. On va commencer les travaux au mois d'octobre. Et aussi, on travaille en parallèle avec la boutique à l'essai qui va nous sortir les dossiers une fois que l'ensemble, on pourra débuter début 2024.
Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la boutique à l'essai, on en retrouve désormais dans plusieurs villes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe?
Alors, ce sont des gens que l'on rémunère qui vont monter les dossiers à notre demande, voilà, pour voir en fonction de la superficie du local, de la disposition du local. Nous, on a la chance d'avoir un parking à côté, donc là, il y a le stationnement, et eux vont nous déterminer exactement quel commerce serait le plus approprié et quel commerce a le plus de chances de pouvoir rester et d'être pérenne et de ne pas faire une boutique à l'essai qui dure uniquement 6 mois. Voilà.
Donc avec un accompagnement, hein, bien sûr.
Tout à fait.
Ça vient d'où, enfin, votre volonté de dynamiser le centre-ville? Pourquoi c'est si important pour vous?
Alors, c'est surtout pour maintenir les commerces sur la commune, en fait, pour tous les Porchevillois. Et puis, ne pas devenir une commune dortoir. Voilà, les gens viennent, travaillent, rentrent, etc. On veut quand même qu'il y ait une vie au sein de la commune, voilà, pour préserver aussi ce cadre de vie.
La Poste a transféré ses services, la Poste qui était présente avant ici. En tout cas, en ce qui concerne les colis et les recommandés, désormais, ce sera chez l'épicier. Vous gardez ainsi un service. Ça aussi, c'était important pour la ville.
Alors oui, ça, c'était très important de conserver un service postal. Donc là, on a transféré une partie chez l'épicier, ce qui fait que ça a augmenté l'amplitude horaire énormément. Avant, on avait juste une amplitude de 12 heures hebdomadaires. La Poste était ouverte uniquement 12 heures. Donc on se cassait souvent le nez lorsque l'on allait à la Poste. Il fallait aller à Gargenville ou à Limay. Donc maintenant, l'épicier, lui, a pris en charge cette partie hors finance, donc de tout ce qui est recommandé, tout ce qui est les colis, enlèvement de colis, dépôt de colis. Et donc là, maintenant, il est ouvert jusqu'à plus de 70 heures par semaine, ce qui fait que c'est un confort pour tous les Port-Chevillois. Vous pouvez aller chercher votre recommandé le soir à 18h, vous n'êtes pas obligé de prendre une demi-journée pour aller chercher votre recommandé à la poste.
Parce que tout le monde a vécu déjà ce moment-là. Et puis en plus, visiblement, c'est un service qui plaît aux habitants, qui plaît à celui qui s'en occupe. Tout le monde a l'air plutôt satisfait de ce transfert.
Exact. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois l'épicier pour savoir si ça avait bien pris, si ça se passait bien. Donc lui, il est ravi. Donc effectivement, ça amène aussi du monde dans son commerce. Donc ça, j'espère augmenter son chiffre d'affaires. Et le fait que l'on puisse se déplacer en proximité, ça fait aussi permettre de rencontrer d'autres personnes. La boutique devient plus vivante. Donc voilà.
Ça contribue tout ça, bien là aussi. Hein,
ouais, on n'a eu absolument aucune réclamation, contrairement à ce qu'on aurait pu nous dire. Personne n'est venu se plaindre, personne, on n'a absolument aucune réclamation à ce sujet en mairie.
Donc un service qui plaît. Oui. Un marché qui a aussi été mis en place par la mairie tous les dimanches matins. Il y avait une forte demande des habitants. Comment ça se passe ?
Alors là, le marché, c'était à la demande des habitants. Donc on avait fait un sondage à l'époque. On s'était vraiment déplacé, on avait vraiment vu tous les habitants pour savoir quel jour serait le plus approprié. Donc ils nous ont donné le dimanche matin. Donc le dimanche matin, nous avons créé un marché, nous avons cherché des commerçants, on a mis en place, ça représentait énormément de travail. Donc on a maintenant 5 commerçants qui viennent régulièrement, on essaye d'étoffer. Mais par contre, les Port-Chevillois, je suis un petit peu déçu, car ils ne jouent pas le jeu, ils ne viennent pas, ou très peu. Au départ, effectivement, il y a un effet de mode, les gens se sont déplacés. Mais maintenant, le fait qu'il y ait moins de clients, du coup, moins de commerçants, moins de clients, etc. C'est
un
cercle vicieux qui fait que là, on va retrouver d'autres commerçants. Et normalement, ce dimanche, on va avoir un nouveau primeur. Et puis, on va essayer encore d'étoffer en ayant plus de commerçants. Mais effectivement, eux, c'est leur job, c'est leur travail, c'est leur chiffre d'affaires. Donc, ils viennent s'ils ont un potentiel de clients pour pouvoir faire de l'argent, tout simplement. Quoi.
Et là, sur les 5 commerçants, vous arrivez à proposer une offre un peu variée ?
Alors oui, nous avons un fromager, un maraîcher, un primeur, un boucher charcutier, chevaline, et puis une marchande de vêtements aussi.
Bon, comme ça, au moins, l'appel est lancé pour que les Port-Chevillois reviennent profiter de ce marché.
Exactement. Et si vous voulez un marché, il faut aussi venir en tant que client et non justement en tant que visiteur.
Et les employés municipaux, bien sûr, qui s'en occupent, sont là pour les accueillir ?
Non, pas du tout. Ce ne sont pas les employés municipaux qui s'en occupent. Ce sont les adjoints. Voilà, pour minimiser les frais, du coup, ce sont les adjoints qui se déplacent à tour de rôle le dimanche matin pour ouvrir. Donc deux adjoints tous les dimanches, un qui fait l'ouverture le matin et un qui fait la fermeture l'après-midi pour éviter de bloquer une personne à chaque fois. Donc ce sont vraiment les adjoints qui se sont impliqués pour faire l'ouverture et la fermeture du marché.
En revanche, il y a une vraie réussite, c'est ce qu'on appelle un DAB communément, le distributeur automatique de billets. Lui, il avait été très demandé et pour le coup, il fonctionne.
Alors, le DAB, oui, le DAB, c'est vraiment une très belle réussite. On a eu un petit peu de mal pour le mettre en place. On a choisi un emplacement qui est, à mon avis, très judicieux entre la boulangerie et la pizzeria, et qui est aussi sur le boulevard, ce qui fait que et à proximité du parking. Donc, on peut s'arrêter très facilement à côté, retirer de l'argent. On a environ entre 1 800 et 2 000 retraits par mois, ce qui est quand même considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les banques se désengagent de plus en plus. Et donc, ce sont les communes qui se substituent aux banques pour mettre des distributeurs de billets. Bon, cela a un coût pour la commune, mais quelque part, on apporte aussi un service au vu du nombre de retraits qui ont aussi augmenté du fait que la Poste a transféré les services chez l'épicier qui, lui, ne fait pas de partie financière. Donc, les gens, de plus en plus, viennent retirer de l'argent sur ces distributeurs de billets.
Ce que vous le disiez, effectivement, les banques les suppriment de plus en plus et votre volonté, ça a été au contraire d'aller à contresens et de dire non, c'est important d'en avoir un dans la commune.
Oui, et on s'aperçoit en fonction de la somme globale que je ne vous donnerai pas, qui est retirée tous les mois, qu'on nous dit que maintenant on va vers la démonétisation, mais il y a encore énormément d'espèces qui circulent pour tous les commerces.
Puis vous le disiez, plus de 2000, environ 2000 retraits par mois, c'est assez conséquent, effectivement. On va parler aussi culture. Puisqu'on le disait, Port-Chevillois est tout de même riche en attractions culturelles. Tout d'abord avec l'espace culturel Boris Vian, bien sûr, mais aussi le très attractif Déambule. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors, le Déambule. Le Déambule, c'est un véhicule, en fait, qui se déplace dans le projet Aller Vert, donc vers les communes de moins 5000 habitants, pour promouvoir la culture, la lecture et tout ce qui est ludique, les jeux. Donc à la demande des communes, on se déplace en fonction de leur demande. Si c'est plus, j'irais plus pour les personnes qui ont un certain âge, si ça vous rappelle le bibliobus, voilà, c'est un petit peu ce genre de choses, mais à la demande des communes. Donc ça peut être aussi bien à la demande de l'école de la commune, à la demande de la commune pour une animation. Et à ce moment-là, on équipe le déambule avec des jeux, avec des livres, des mangas, voilà. C'est une remorque qui est équipée avec des transats, des tables pour pouvoir faire des jeux sur les tables. Et puis, on peut la charger différemment en fonction de la demande de la commune chez qui on va faire la prestation.
Vous le disiez justement, eh bien, la remorque qui va avec déambule, ça a été une longue attente pour la recevoir, cette
oui,
remorque.
Oui, ça en a mis plus d'un an pour avoir cette remorque, car il fallait la faire homologuer, le passage aux mines. Et comme ce sont des remorques qui sont fabriquées à l'unité, spécifiquement pour ce genre de choses, à notre demande, donc là, oui, on est obligé d'attendre un plus d'un an. Donc effectivement, on avait déjà le véhicule au départ que l'on a équipé, parce qu'on n'avait pas la remorque, mais on avait décidé quand même de lancer le projet, et ça a permis de se déplacer sur des petites communes qui n'avaient pas cette chance d'avoir une bibliothèque ou une ludothèque. Et maintenant, on a une remorque, ce qui fait que ça permet d'étoffer en fait la prestation auprès des communes.
Quelle est la demande justement de la part des communes? Est-ce qu'il y a une vraie attente? Vous avez déjà réalisé différentes prestations?
Alors oui, nous avons déjà pas mal de prestations. On en est à plus d'une vingtaine de prestations sur toutes les communes environnantes, que ce soit des lycées, des écoles ou simplement des animations lors de fêtes locales. Donc on a fait énormément de choses. Ouais, ouais.
Vous avez rapidement abordé l'idée en parlant du projet Aller Vert, qui ne parle pas forcément au grand public. Qu'est-ce que c'était Aller Vert, ce projet, à l'origine?
Alors le projet Aller Vert, de mémoire, c'était un projet soutenu par la CAF, les caisses d'allocation familiale, et qui était subventionnée par la CAF, ce qui fait qu'on a aussi donc il y aurait eu des subventions à ce sujet pour vraiment promouvoir la culture et la projeter sur les différentes communes alentour.
Et donc, vous l'avez dit, hein, ça va directement dans les communes, rurales ou non, d'ailleurs, puisque certaines communes ne sont pas des communes rurales et ont fait appel à vos services avec Déambule. Quel type de projets ont été menés? Quel type d'animation il a pu y avoir avec?
Alors, nous avons été sollicités aussi par GPSO pour le théâtre La Nacelle. Nous avons aussi, nous sommes déplacés jusqu'à Freneuse, les lycées aussi, le lycée de Mantes, le collège Jean Racine à Viroflay. Donc, un petit peu étonné que Viroflay fasse appel à notre service. On pense qu'une ville comme Viroflay aurait la structure. Voilà, donc c'est très agréable à savoir que l'on va jusqu'à Viroflay pour cette prestation. Et puis après, ce sont d'autres communes comme Fontenay-Montvoisin, Montalet, Annette, Bruy-Bois-Robert, etc., Boinville-en-Mantin, qui nous sollicitent auprès de leurs écoles.
Et donc encore pas mal de nombreux projets. Des projets d'ailleurs, la municipalité a lancé son club manga. Là aussi, on retrouve, on continue cette idée de culture.
Alors, au sein de la médiathèque, effectivement, on a développé le club manga. Et là, donc, on a augmenté énormément la fréquentation de la médiathèque. Parce qu'on s'est aperçu qu'avec le club, et donc on a une personne qui est très dynamique, qui est très branchée, si je puis dire, manga. Donc du coup, ça fonctionne très bien. Donc on a une participation et beaucoup de jeunes qui viennent maintenant à la médiathèque. Et j'espère qu'ils vont s'orienter aussi sur la lecture d'autres ouvrages.
Et on sait que les passionnés de manga sont très nombreux. Le sport est également un point important à Porcheville. Vous avez développé un multisport.
Alors cette année, on a une offre multisport pour les tout-petits. C'est surtout pour les initier aux différents sports que l'on peut avoir sur la commune, pour que dans le futur, ils puissent choisir leur activité, c'est-à-dire initiation au tennis de table, initiation peut-être pas au football, mais enfin tout ce qui peut être prestations sur la commune, de manière à ce qu'après ils puissent choisir vraiment une activité. Et puis aussi jeux de ballon, jeux de balle, etc.
Je le disais en préambule, hein, les événements ne manquent pas à Porcheville et les équipes sont déjà sur le front pour préparer Halloween, alors qu'il y a quelques semaines à peine, il y avait la fête de la ville, un événement incontournable. Halloween, ça va déjà être une grosse fête aussi.
Alors oui, donc si on revient un petit peu sur la fête communale qui s'est très très bien passée, toujours avec notre fameuse Color Run, cette année, un spectacle de feu qui a été accueilli, je dirais très très bien accueilli, on a eu du très bon retour à ce sujet, donc voilà, à la place d'un feu d'artifice. Et effectivement pour Halloween, donc là on prépare, il y a un engouement en fait pour Halloween cette année, et la plupart des animateurs se sont portés volontaires pour faire une animation sur la pyramide, sur le thème de l'Égypte hantée, Voilà, donc ça porte bien son nom, la pyramide avec l'Égypte hantée. Et ça sera ouvert à partir de 8 ans. Et les bénévoles étaient tellement nombreux que du coup, on a déporté aussi Halloween juste en face sur le centre culturel en créant un hôpital psychiatrique à Bourg-Vivian. Voilà, dans le cadre de Halloween. Donc je vous en dirai pas plus, on m'a demandé de garder le suspense. Donc voilà. Donc,
en tout cas, ça a l'air de faire peur.
Bon, j'espère, c'est le but.
En octobre, il y aura aussi Octobre Rose, puis ensuite Noël. Là aussi, Noël, vous êtes déjà en train de commencer à le mettre en œuvre en cherchant des artisans locaux.
Oui, donc Octobre Rose, oui, effectivement. Oui. Donc cette année, il va être à Issou. On fait un partage avec Issou, on travaille avec eux. Et puis le marché de Noël, on va essayer de faire un marché avec les artisans locaux qui seront mis à l'honneur le 2 et le 3 décembre sur Porcheville.
Monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast ainsi que les précédentes sur notre site internet bpmlaradio.com. Un grand merci à Robin et aux équipes de BPM sans qui cette émission ne serait possible. Tout de suite, vous retrouvez comme chaque matin Pauline et Fredo dans la matinale. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour votre journal d'information locale. A tout de suite sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.